Bonjour à chacun. Comment allez-vous? Avec le beau temps? Envie de sortir peut-être. Qui peut servir dans l'Église? Qui peut servir dans l'Église? C'est la question que j'aimerais que nous ayons en tête en lisant notre texte de ce matin. Un texte qui nous présente les premières actions d'un serviteur que nous connaissons bien, Moïse. Et, je vous prie d'ouvrir vos Bibles avec moi dans Exode 2. Et nous allons lire à partir du verset 11 jusqu'au verset 25. Pour ceux qui ont la même version que moi, la version seconde 21, c'est à la page 40. Une fois devenu grand, Moïse sortit vers ses frères et vit leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien frapper un Hébreu, un de ses frères. Il regarda de tous côtés, vit qu'il n'y avait personne, et tua l'Égyptien qu'il cacha dans le sable. Quand il sortit le jour suivant, il vit deux Hébreux qui se battaient. Il dit à celui qui avait tort, « Pourquoi frappes-tu ton prochain ?» Cet homme répondit alors, « Qui t'a établi chef et juge sur nous ? Est-ce pour me tuer que tu parles ? Tout comme tu as tué l'Égyptien ?» Moïse eut peur et se dit, « L'affaire est certainement connue. » Le Pharaon apprit ce qui s'était passé et il chercha à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit loin de lui et s'installa dans le pays de Madian. Il s'arrêta près d'un puits. Le prêtre de Madian avait 7 filles. Celles-ci vinrent puiser de l'eau et remplir les abreuvoirs pour faire boire le troupeau de leur père. Les bergers arrivèrent et les chassèrent. Alors Moïse se leva, prit leur défense et fit boire leur troupeau. Quand elles furent de retour chez Réuel, qu'on appelle aussi un Jéthro par ailleurs, leur père, il demanda, « Pourquoi revenez-vous si vite aujourd'hui ?» Elles répondirent, « Un Égyptien nous a délivrés de la main des bergers. Il nous a même puisé de l'eau et a fait boire le troupeau. » Réuel dit à ses filles, « Où est-il ? Pourquoi avez-vous laissé cet homme ? Allez l'appeler pour qu'il vienne prendre un repas. » Moïse décida de s'installer chez cet homme qui lui donna en fille en mariage sa fille Séphora. Elle mit au monde un fils qu'il appela Gershom, car il dit « Je suis en exil dans un pays étranger ». Longtemps après, le roi d'Égypte mourut. Les Israélites gémissaient du fond de l'esclavage. Ils poussaient des cris. Leurs appels montèrent du fond de l'esclavage jusqu'à Dieu. Dieu entendit leurs gémissements et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu vit les Israélites. Il comprit leur situation. Je voudrais voir trois points au travers de ce texte avec vous ce matin. Moïse s'engage, Moïse échoue et s'enfuit, mais Dieu est là. Entre la prédication de la semaine passée et aujourd'hui, 40 ans se sont écoulés. Moïse venait juste de rejoindre sa mère adoptive, la princesse d'Égypte, et maintenant c'est un homme mûr. Il vit depuis son jeune âge dans la cour de Pharaon. C'est là qu'il a été éduqué. Il a dû bénéficier de l'éducation qui était la plus avancée de son époque. Les mathématiques, l'art, la religion avec tous les dieux de l'Égypte. Il a vécu en bénéficiant des richesses de l'Égypte, du luxe, des nombreux serviteurs qui étaient au service de la famille royale dans le palais. Aujourd'hui, ce serait peut-être être le fils d'un multimillionnaire qui, dès son plus jeune âge, se déplace avec une voiture en chauffeur pour aller à l'école primaire, qui grandit, fréquente les meilleures écoles avec des tuteurs qui les accompagnent dans chaque matière, qui voyage dans le monde entier, qui visite les plus beaux musées, les meilleurs restaurants, les palaces. Tout est accessible. La vie est facile. La vie est belle. Pas de soucis à l'horizon. Vous savez, ce qui est étonnant avec le confort, c'est la vitesse à laquelle nous nous y habituons. Le jour où vous avez votre première voiture climatisée, vous ne voulez plus rien d'autre. Le jour où vous avez goûté une viande de qualité, difficile de revenir en arrière. Le jour où vous avez goûté à la joie des marques, que ce soit pour vos téléphones, habits, voitures, chaussures, et j'en passe, plus question de vivre sans. Nous aimons facilement le confort. Nous préférons les regards envieux de ceux qui nous entourent plutôt que les regards compatissants. Nous préférons être importants, ou au moins le paraître, plutôt que d'être insignifiants. 40 ans de luxe, de facilité, de pouvoir, que serions-nous devenus ? Nous ne savons pas trop ce qui s'est passé pour Moïse pendant ces 40 ans. Mais nous le voyons, il sort. Il sort et il voit. Il voit l'esclavage de son peuple d'origine. Il voit les corvées. Il voit cet Égyptien qui frappe un de ses esclaves. Qu'aurions-nous fait à sa place ? Peut-être que nous aurions été dégoûtés de voir l'injustice dans laquelle vivait ce peuple. Mais que peut-on y faire ? Comment imaginer renverser le pouvoir de l'Égypte ? Lui, le prince d'Égypte, lui qui était au-dessus encore de ce contremaître qui battait cet esclave, s'identifie à cet esclave. Il le considère comme un frère. Il ne voit personne pour intervenir. Alors il intervient. Il se bat du côté de l'esclave. Il connaît les risques pour lui. Et c'est pour cela qu'il se dépêche de cacher le corps quand il constate que, en se battant, il a donné la mort. Ce que nous avons, ce n'est pas juste une scène de bagarre qui a mal tourné. C'est un homme qui tourne le dos à la gloire. Il renonce à être prince d'Égypte pour affirmer son appartenance au peuple de Dieu. Il renonce à la facilité de la vie de la cour de Pharaon pour partager les souffrances de son peuple, pour se battre aux côtés de son peuple. Comment est-ce que nous savons cela ? En fait, le Nouveau Testament nous aide. On va lire quelques versets dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 11. Les versets 24 à 26. Page 794. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, a refusé d'être appelé fils de la fille du Pharaon. Il préférait être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir momentanément la jouissance du péché. Il considérait l'humiliation attachée au Messie comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Il avait les yeux fixés sur la récompense à venir. Quel regard on a sur cette scène qui nous est donnée ici. Moïse avait foi en Dieu et c'est sa foi qui l'a poussé à être du côté des esclaves plutôt que de profiter des richesses de l'Égypte. Et ça ne vous rappelle rien ? Regardez ce texte. Lui, qui était de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains, reconnu comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Lui, c'est Jésus, qui n'a pas regardé les trésors du ciel comme quelque chose qu'il voulait posséder. Il a abandonné cette place de prince du ciel pour venir comme un esclave. Moïse nous rappelle que nous étions ces esclaves-là, esclaves du maître cruel, prisonniers du péché, incapables de nous en sortir. Moïse nous rappelle que Christ n'est pas resté au ciel, qu'il n'a pas cherché à garder sa position, mais qu'il y a renoncé. Il a pris la condition d'esclave. Je relisais il y a quelques jours la scène où Jésus lave les pieds de ses disciples et nous en avons parlé avec un des groupes de maison. Mais est-ce que vous imaginez cette scène-là ? Lorsqu'on entrait dans une maison à l'époque, un esclave vous lavait les pieds. Mais ce n'était pas n'importe quel esclave qui vous lavait les pieds. C'était le dernier esclave de la maison, celui qui avait le moins d'honneur dans la maison, parce que c'était la tâche la plus humiliante et la plus méprisable qu'il pouvait y avoir. Il y avait une espèce de hiérarchie parmi les serviteurs, parmi les esclaves, et le dernier avait cette tâche-là, de vous laver les pieds quand vous entriez dans la maison de son maître. Et Jésus s'apprête à prendre la dernière Pâque. Il est au bout de son chemin. Mais voilà que comme la pièce où ils prennent la Pâque est louée, il n'y a pas d'esclaves. Alors on se dit, ben, y a bien un des disciples. Ah non, il n'y a pas un des disciples. Alors vous savez ce qu'ils sont en train de faire, les disciples ? Ils sont en train de discuter entre eux de savoir qui est le plus grand. Et à ce moment-là, Jésus prend un linge, le met autour de sa taille, il prend une bassine et il lave les pieds de ses disciples. Il a renoncé à sa position de prince des cieux, de roi des cieux, pour devenir un esclave, le dernier d'un esclave. Il est allé jusqu'à la mort de la croix. La croix, c'était quelque chose de tellement humiliant qu'on n'osait même pas en parler. Personne ne disait le mot « crucifié » parce que c'était honteux que de mourir sur une croix. Moïse, par la foi, a choisi le peuple de Dieu. Il renonce à la gloire terrestre parce qu'il avait une espérance meilleure. Il avait les yeux fixés sur l'avenir. Et c'est cette espérance aussi qui a conduit Christ à venir vers nous. Mais là où Moïse s'est battu et a tué un homme pour en sauver un autre, Jésus est mort pour nous sauver. Il a offert volontairement sa vie pour nous sauver. Là où Moïse s'est battu, Jésus a été battu avant d'aller à cette croix. Battu au point qu'il n'arrive plus à marcher et porter la croix. À cause de l'espérance qu'il avait, à cause de la promesse de Dieu. Ça nous encourage aujourd'hui à consolider notre espérance. Est-ce que nous aspirons au retour de Christ ? Est-ce que nous avons une belle idée de ce que c'est que le ciel ? Est-ce que le ciel, c'est plus beau que cette terre ? Ou est-ce que nos trésors sont ici ? Jésus a aimé l'Église plus que sa propre vie, et c'est ça qui l'a conduit vers la croix. Est-ce que nous, nous aimons l'Église, celle que Jésus chérit ? Apprenons à connaître Jésus. Constatons l'ampleur de son amour pour nous, l'immensité de son sacrifice. Et peu à peu, nos trésors vont finir par pâlir. Une deuxième question. Qu'est-ce que nous voyons quand nous sortons de chez nous ? Nous avons dit que Moïse voit les corvées. Il voit l'Égyptien, l'Hébreu qui bat un de ses frères. Et puis, ce jour suivant, il voit l'Égyptien qui bat un de ses frères. J'y reviens. Et le jour suivant, que se passe-t-il ? C'est deux Hébreux qui se battent. Et Moïse semble en avoir assez vu pour savoir qui a raison parmi les deux. Et à nouveau, il intervient. « Pourquoi est-ce que tu frappes ton compagnon ?» Et celui-ci répond sans s'y tromper. « Hé, qui t'a fait chef et juge parmi nous ?» Et bien sûr, c'est sous l'angle de la justice qu'il se sent repris par Moïse. Et si nous avançons de quelques versets, nous voyons les sept filles de Réuel qui se font chasser du puits alors qu'elles sont en train d'abreuver leurs bêtes. Les bergers usent de leur force, parce que comme ça, au moins, ils rentreront plus tôt à la maison, les filles. Hein, quand on aura fini, vous viendrez puiser de l'eau. Et d'ailleurs, Réuel ne s'y trompe pas, il dit, mais vous êtes déjà là ? Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui ? Parce que d'habitude, les filles passaient en dernier. Quand tous les gros mâles et les gros bras, enfin ouais, comme moi, ça vous fait rire, étaient passés. Et là encore, Moïse voit l'injustice et Moïse intervient et il chasse les bergers qui doivent cette fois attendre leur tour. ça nous pose la question. Que voyons-nous? Est-ce que nous voyons l'injustice de ce monde? Ou est-ce que même nous voyons l'injustice au sein même de l'Église? Dans l'Église, certaines personnes souffrent de l'injustice. Elles souffrent premièrement parce que ce monde est déchu. C'est un monde injuste qui font que certains d'entre nous, certains d'entre vous, sont peut-être mal payés pour le travail qu'ils font. D'autres sont quelquefois mal soignés parce que votre médecin s'intéresse peut-être plus à sa fiche de salaire et au quart d'heure qu'il a à vous accorder qu'à votre souffrance. D'autres vivent même l'injustice à l'intérieur de l'Église, parce que ce sont toujours eux qui doivent faire le ménage, ranger, nettoyer, et que personne ne semble s'en préoccuper. La question se pose à moi. Est-ce que je vois l'injustice autour de moi? Est-ce que je suis quelqu'un de juste, capable de voir l'injustice autour de moi? Et qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'agis? Est-ce que j'explose comme Moïse? Ou est-ce que je suis prêt à me sacrifier comme Christ? Est-ce que je suis prêt à me sacrifier en m'engageant, en donnant de mon temps, en consolant ce frère ou cette sœur, en priant avec elle, en dénonçant l'injustice, en accompagnant, en soulageant, en remplaçant, en agissant? Ou est-ce que j'espère que quelqu'un d'autre le fera à ma place? Deuxième point que je voudrais voir avec vous. Moïse échoue et Moïse s'enfuit. Moïse est très vite dépassé par la situation et il renonce assez rapidement à ses ambitions. Lorsque Moïse intervient pour s'interposer entre les deux Hébreux, c'est lui qui est repris. « Est-ce que tu vas me tuer comme tu as tué l'Égyptien ?» Je voudrais qu'on prenne 2-3 secondes pour regarder un petit peu ces verbes. Regardez avec moi. Verset 11, que se passe-t-il? Un Égyptien frappait un Hébreu. Et c'est le verbe « naka » qui est utilisé. Pas comment ça se prononce, mais c'est ce verbe-là qui est utilisé. Et globalement, ce verbe peut se traduire, c'est un verbe assez large, on peut le traduire par « frapper », »,« donner un coup », »,« battre », »,« tuer », »,« assassiner ». Verset 12. Il tua l'Égyptien. Oui, mais c'est le même verbe qui est utilisé. Verset 13. Pourquoi frappes-tu ton prochain? C'est encore une fois le même verbe qui est utilisé. Maintenant, verset 14. Est-ce que tu vas me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Et ce coup-ci, on change de verbe. Deux fois, c'est le verbe harag qui est utilisé. Un verbe qui est beaucoup plus restreint, qui désigne le fait de tuer, d'assassiner, de détruire. Le regard sur la situation n'est pas tout à fait le même. Nous ne pouvons pas savoir, en lisant ce texte, quelle était vraiment l'intention de Moïse. Mais par contre, nous pouvons voir ce qu'en dit le Nouveau Testament. Et encore une fois, on va regarder dans le Nouveau Testament, dans la bouche d'Étienne, dans Actes 7, versets 23 à 24. Page 712. Il était âgé de 40 ans lorsqu'il a eu à cœur de rendre visite à ses frères, les Israélites. Il en a vu un qu'on maltraitait, a pris sa défense et pour venger l'homme malmené, a frappé l'Égyptien. Ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par son intermédiaire, pensait-il, mais ils ne l'ont pas compris. Moïse avait choisi de s'engager pour son peuple. Il prend la défense de son peuple, il veut le venger de l'esclavage cruel. Il espère pouvoir libérer son peuple. Il se voit déjà à la tête d'une rébellion, d'un combat contre les Égyptiens. Mais Moïse est repris. Tu as tué. Moïse est repris. Qui t'a fait chef et juge sur nous? Moïse échoue dans son projet pour plusieurs raisons sans doute. La première, c'est qu'il prend la place de Dieu. C'est Dieu qui est le libérateur et non Moïse. Lorsque on nous dit que c'est par la foi que Moïse a agi, cela nous indique que Moïse connaissait Dieu, qu'il devait connaître les promesses de Dieu qui ont été faites à Abraham, Isaac et Jacob. Celle de donner un pays, celle d'être leur Dieu, celle d'habiter au milieu d'eux. La promesse de les protéger, de les garder. Mais ces promesses, ce n'est pas à Moïse de les remplir. C'est à Dieu lui-même de le faire. Moïse est impatient, il voit la souffrance, il veut agir. Mais sans tout dévoiler, regardons au chapitre 3, verset 19. Voici ce que Dieu dit à Moïse lorsque cette fois, il va l'appeler à le servir. « Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera pas partir à moins d'y être contraint par une forte intervention. J'interviendrai, je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que j'accomplirai au milieu d'elle. Après ça, il vous laissera partir. Je frapperai l'Égypte. » Et on retrouve le premier verbe, naka. Le problème de Moïse, c'est qu'il a fait le job de Dieu. Il l'a fait avant que Dieu l'appelle à un autre travail. Moïse n'est pas à la hauteur de la tâche à laquelle il s'est attelé. C'est Dieu qui va faire cela. Et lorsque nous voyons ce que Dieu va devoir mettre en œuvre pour faire fléchir l'Égypte, on comprend que Moïse soit dépassé. 10 plaies qui vont dévaster le pays. On a une espèce de décréation de toute l'Égypte. Seul Dieu peut faire ça. Moïse n'est pas à la hauteur. Le pharaon avait peur dans le chapitre 1, en voyant ce peuple de Dieu qui grandissait malgré l'oppression qu'il exerçait sur lui. Et maintenant, c'est Moïse qui a peur. Il échoue et le voici contraint à renoncer. Il fuit l'Égypte, mais son caractère de libérateur le poursuit. Il voit l'injustice à Madian, il réagit brutalement. Il défend les filles de Madian, mais on a toujours la même brutalité. Il fuit et il est accueilli dans un pays qui n'est pas le sien. Réuel voit la justice de Moïse et l'invite à manger. Moïse s'installe. Il se marie avec une de ses filles. Il reste là. 40 ans. Moïse aura un fils, il l'appelle Gershom, immigré. Encore un indice de son échec. Il n'est pas dans son pays, il n'est pas là où il devrait être, mais il n'a plus de solution. Il ne sait pas comment faire. Le pharaon est mort, mais Moïse n'a plus rien à offrir. Ce qu'il a fait n'a servi à rien. Le peuple continue d'être oppressé de la même manière. Dans ce chapitre, nous voyons un Moïse qui n'est pas encore prêt. Son cœur est pour Dieu et pour son peuple, mais il ne comprend pas encore quel va être son véritable rôle, ce que Dieu a préparé à l'avance pour lui. Et ce texte se termine un peu différemment. On a un changement. Dieu est là. Le pharaon meurt, la situation ne s'arrange pas. Dieu entend les gémissements, les appels au secours de son peuple et Dieu se souvient. Alors quand Dieu se souvient, c'est pas comme quand vous et moi vous perdez vos clés, hein. Vous savez, hein, ce que je les ai mis. Ah, je me souviens. Enfin, moi c'est rarement que je me souviens. Ma femme se souvient des fois. C'est pas du tout ça. Quand Dieu se souvient, c'est qu'il remet le sujet sur la table. C'est qu'il se prépare à agir. Mais ce qu'il veut, c'est que nous sachions pourquoi il va agir. Dieu se souvient de quoi ? Il se souvient de son alliance envers son peuple. Il agit conformément à son plan, à son alliance, aux promesses qu'il a faites à Abraham, Isaac et Jacob. Je vais vous donner un pays. Je serai votre Dieu. J'habiterai au milieu de vous. Dieu regarde son peuple et il sait. Il sait ce que vit son peuple. Il sait quand agir. Il sait comment agir. Il sait avec qui agir. Et le chapitre suivant sera consacré à l'appel de Moïse. Quelques mots pour conclure. Revenons à notre question. Qui peut servir dans l'Église ? Quelques principes issus de ce texte. Quatre principes. Aimer l'Église. Il semble que c'est la toute première chose que nous montre ce texte. Aimer le peuple de Dieu. Moïse n'a pas aimé le monde et ses richesses, mais il a aimé le peuple de Dieu. Est-ce que nous aimons le peuple de Dieu ? Si nous aimons le peuple de Dieu, nous aurons envie de le servir. Deuxième chose, être humble. Si beaucoup de choses dans ce texte et dans le parcours de Moïse nous évoquent Jésus, Moïse n'est pas le sauveur. Et nous ne le sommes pas non plus. Notre rôle n'est pas de sauver, mais de conduire vers le sauveur, d'accompagner vers le sauveur. Troisième chose, être pardonné en Christ. Moïse est un meurtrier, mais Dieu a payé pour le prix de nos fautes. Quel que soit notre passé, nos fautes, nous pouvons servir dans l'Église. Troisième, dernière chose, quatrième chose, reconnaître notre incapacité à servir. C'est peut-être la première qualité que nous devons avoir. Reconnaître notre incapacité à servir. Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Moïse a essayé et il a lamentablement échoué au point qu'il a dû fuir, au point qu'il a abandonné l'idée de sauver son peuple. Et Dieu va devoir ramer pour le ramener en Égypte. Pour conclure, voici ce que nous dit Paul dans sa lettre aux Corinthiens. « Mais Dieu a choisi les choses folles de ce monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. » Ce matin, j'aimerais que chacun d'entre nous réalise que nous sommes appelés à servir. Aucun d'entre nous n'est assez mauvais ou assez incapable pour ne pas pouvoir servir. Acceptons que Dieu nous utilise. Acceptons qu'il nous forme. Acceptons qu'il sait ce que nous devons faire. Acceptons qu'il prépare des choses pour chacun de nous. Soyons fidèles dans les petites choses qu'il nous confie. Prenons soin les uns des autres. Servons nos frères et nos sœurs pour que Dieu soit glorifié. Et dans tout cela, Dieu est là. Il règne, il voit son peuple, il a un projet pour lui. Il le montre lors de l'Exode, il l'a accompli à la croix et il revient bientôt. Dieu est là et c'est pour cela que nous pouvons servir en paix malgré le fait que nous soyons totalement incompétents pour le faire. Prions. Notre Dieu, notre Père, tu es un grand Dieu, un Dieu souverain, qui règne depuis la création jusqu'à ton futur retour. Toutes choses sont dans tes mains. Tu prépares tout à l'avance. Tu savais exactement avec qui, comment tu allais libérer ton peuple, quand tu allais le faire. Et Moïse devait expérimenter certaines choses avant de devenir ce berger qu'il va devenir pour son peuple. Tu es le sauveur, nous sommes tes serviteurs. apprends-nous à aimer l'Église, apprends-nous à reconnaître notre incapacité à te servir, apprends-nous à discerner ce que tu as préparé à l'avance pour chacun d'entre nous. Tu vois que très souvent, tu nous donnes plein d'indices, plein de choses que tu mets devant nous. Apprends-nous à accepter de faire les choses simples que tu mets devant nous pour que nous devenions vraiment tous, chacun, là où nous sommes, tes serviteurs. C'est au nom de Jésus, le serviteur parfait, que nous te prions. Amen.
Merci Jean-Jacques. Je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure. Finalement, après ce message, si j'ai tendance à voir les défauts de mes frères et sœurs en premier, finalement, c'est que je ne les aime pas vraiment. Et puis, si j'ai tendance à voir les défauts de mes frères et sœurs en premier, où est l'humilité que Dieu me demande? Où est-ce que je me place par rapport à mon frère ou ma sœur? Si j'ai tendance à voir les défauts de mes frères et sœurs en premier, qu'est-ce que je fais du fait que je suis pécheur pardonné et que des défauts, j'en suis rempli? Et si j'ai tendance à voir les défauts de mon frère ou de ma sœur en premier, qu'est-ce que je fais de mon incapacité à servir Dieu? Aujourd'hui, je suis invité à demander l'aide de Dieu pour voir mon frère et ma sœur comme un serviteur à part entière de Dieu, un serviteur équipé par Dieu, un serviteur que Dieu a préparé d'avance pour faire les bonnes œuvres.